Chapitre 5. Une mission importante. Ce fut dans une petite auberge ouverte sur les quais de Newcastle que Philippe put prendre à loisir son premier repas. Il était entouré de marins bavards et grossiers, lesquels n'eussent pas demandé mieux que de lier conversation avec ce voyageur étranger. Mais autant pour élever une barrière entre eux et lui que pour obéir à un entraînement presque irrésistible, il se fit apporter papier, plume et encre, puis sur la première feuille traça lentement ces mots. « Mon très cher oncle. » Après quoi, il s'arrêta indécis, les yeux fixés sur la page blanche et se demandant s'il parlerait de Kinraid. Mais dans ce cas, jusqu'où iraient ces révélations? La pensée lui vint aussi d'écrire directement à Sylvia elle-même, et de lui dire... De lui dire quoi? Le message de son amant aurait sans doute pour elle tout le poids de l'or, tandis qu'aux yeux de Philippe, les derniers mots prononcés par le Spictionnaire n'avaient d'autre valeur et d'autre consistance que celle de la poussière dont le vent se joue. Vains propos comme ceux dont on se sert pour amuser l'imagination des femmelettes étourdies. Philippe, naturellement, ne faisait aucun fond sur la constance de son rival. D'un autre côté, s'il adressait sa lettre à Robson, mentionnerait-il, purement et simplement, la capture de Kinraid par les agents de la Press Gang? Il le fallait peut-être, puisqu'il était le dernier avec qui on eût pu voir le jeune marin. Cependant, il sentait que la moindre parole à ce sujet devait être décisive, et il hésitait encore, lorsque le nom du Spictionnaire prononcé dans les groupes voisins attira tout à coup son attention. On y parlait avec un grand laisser-aller des qualités exceptionnelles de Kinraid, qui lui assurait un rang distingué parmi ses compagnons de pêche. Mais sur un ton plus libre encore, on jasait de ses talents d'enjôleur et de ses succès auprès de maintes et maintes fillettes dont les noms émaillaient cette causerie de cabaret. Hepburn, dans le secret de son cœur, ajouta deux noms à la liste, celui d'Annie Coulson et celui de Sylvia. Plus pâle que jamais, en face de cette pensée désolante, il demeura comme perdu dans une amère contemplation, jusqu'au moment où les maîtres du logis le tirèrent de sa rêverie, le reste de leurs hôtes ayant peu à peu levé le camp, pour lui demander s'il ne comptait pas lui aussi se retirer dans sa chambre. On l'avertit en outre que sa lettre, si elle était à destination du sud, devait être jetée à la poste le lendemain de bonne heure. Philippe, réveillé comme en sursaut, se hâta d'achever sa missive, qu'il laissa tout exprès décachetée, se réservant d'y ajouter par post-scriptum, suivant les conseils de la nuit, la nouvelle qui lui semblait si difficile à donner. Mais il s'endormit tard, après force délibération contradictoire. Un sommeil de plomb l'envahit tout entier, et lorsqu'il en sortit, à une heure plus avancée que de coutume, il lui restait à peine le temps d'expédier son épître. Il se hâta de la clore et de la jeter à la poste avant de courir s'embarquer sur le bâtiment caboteur où on le mandait avec instance. Au total, il trouvait une sorte de soulagement dans cette pensée, que le hasard s'était chargé de trancher la question et de faire taire ses scrupules. La traversée de Newcastle à Londres ne demanda pas moins de 8 jours, grâce aux précautions minutieuses qu'on prenait à bord du smack contre les entreprises de l'enrôlement maritime. Une fois arrivé, l'agent des Foster s'absorba naturellement dans les détails compliqués de l'enquête qu'il s'était chargé de mener à bien. Elle avait de quoi l'occuper, à l'exclusion de toute autre affaire. Mais le soir, si fatigué qu'il fût de ses courses quotidiennes, ses souvenirs, ses regrets, mêlés, hélas, à bien peu d'espérance, revenaient assiéger son âme et troubler son sommeil. Dans l'impatience fébrile, où le plongeait son ignorance absolue de ce qui se passait à Haytersbank, il ne put s'empêcher d'écrire encore à Mr. Robson, et pour créer un prétexte à sa seconde lettre, il eut soin d'y joindre le prospectus illustré d'une charrue nouvelle qu'il avait tout simplement découpée dans un vieux journal. Mais au fond, il voulait uniquement transmettre à sa bonne tante et à Sylvia le témoignage des inaltérables sentiments qu'il leur gardait, sentiments sur lesquels l'absence n'avait aucune prise. « Peut-être Robson, répondrait-il. » Du moins son neveu voulut-il s'en flatter, bien qu'il sût, mieux qu'un autre, à quel point l'honnête fermier était hors d'état de tracer sur le papier autre chose que des hiéroglyphes à peu près indéchiffrables. Mais c'était bien là ce qu'on appelle « espérer contre toute espérance », et la poste n'apporta rien. La correspondance commerciale des Foster résumait, en termes aussi brefs que possible, les nouvelles de Monkshaven, et pas une fois il n'y fut question de la famille Robson. Philip songea bien à prier Coulson de se rendre à Eitersburg pour le renseigner sur ce qui s'y passait, mais le mécontentement que son collègue avait témoigné en le voyant choisi par leur patron pour une mission de haute confiance ne permettait guère de lui demander un pareil service. Malheureux de ce côté, Philip voyait réussir au contraire les transactions auxquelles il s'employait pour le compte de la maison. Son extérieur sérieux, sa gravité précoce, son exactitude scrupuleuse lui gagnaient le cœur de tous les négociants auxquels il avait affaire. Mais, au milieu de ses succès, l'espoir, chaque jour déçu de cette lettre qui n'arrivait pas, jouant le même rôle que la présence de Mardoké assis au seuil du palais d'Aman, mêlait une secrète amertume à tous ses triomphes et le rendit presque indifférent aux témoignages de satisfaction qu'il reçut de ses patrons. Leur épître, cependant, concise mais expressive, lui faisait pressentir que, pour prix de son zèle et à raison de l'aptitude qu'il venait de montrer, il allait jouir de toute leur confiance et devait se considérer comme leur associé en attendant qu'il devînt leur successeur. Ce n'était point à ceci qu'il songeait, sur le pont du bâtiment caboteur qui allait le débarquer à North Shields, en regardant le prieuré de Monkshaven, dont les antiques bâtiments dessinaient vaguement leur profil gris parmi les brumes d'un lointain horizon. Un voisin des Robson qu'il rencontra presque aussitôt après avoir pris terre n'aurait pas mieux demandé que de lui offrir, en sus des poignées de main qu'il lui prodiguait, une séance à la taverne. C'était là pour notre voyageur, altéré de nouvelles, une belle occasion que, néanmoins, il laissa perdre. Il éprouvait une insurmontable répugnance à parler de Sylvia, et même des parents de Sylvia, soit en pleine rue, soit au cabaret. Il s'abstint donc de toute question et n'en savait pas plus long en rentrant à Monkshaven qu'au moment de sa dernière entrevue avec les habitants de Eitersburg. On pourrait croire qu'après la longue séance où il rendit un compte détaillé de sa mission à ses deux patrons dont la curiosité ne semblait jamais rassasiée, il n'eut rien de plus pressé que de courir à la ferme. Mais non, soit répugnance à s'y montrer, dans ses poudres vêtements de voyage qu'il n'avait pas pris le temps de changer avant de se rendre au magasin, soit qu'il préféra remettre au lendemain une visite que leur avancée devait forcément abréger ce jour-là, il aima mieux rentrer dans son domicile où il allait retrouver Esther et Coulson, sans parler de la bonne mère Alice. Les deux premiers l'avaient entrevue déjà, mais la dernière l'attendait avec impatience et salua son retour d'une exclamation joyeuse. Peut-être n'avait-elle pas espéré qu'il rentrerait de si bonne heure. Malgré sa lassitude, il lui fallut raconter à ses trois commensaux les merveilles de son voyage dans la capitale, ce qu'il fit en laissant de côté, comme l'exigeait la discrétion professionnelle, tout ce qui était relatif aux affaires de ses patrons. Coulson, qui n'en était pas à regretter un mouvement d'animosité irréfléchi, lui portait une attention sympathique. La mère d'Esther, Esther elle-même, secrètement flattée de ce qu'il était venu vers elle au lieu de courir chez les Robson, s'imaginait déjà voir renaître les jours heureux où Philip ne connaissait pas encore le chemin de Eitersburg.